On revient dans notre étude des Nevi'im Acharonim. Et voilà, on a terminé le livre de Micha. Ce qui veut dire que là, on peut rentrer dans le livre de Nahum. Nahum, alors là, c'est tout un programme. C'est tout un programme parce que Nahum Hanavi, eh bien, est un avis très très particulier. Pourquoi est-ce qu'il est très particulier? Eh bien, parce que on connaît pas grand-chose de lui. On connaît pas grand-chose de l'époque dans laquelle il a vécu. C'est la première des choses. Alors, c'est-à-dire qu'on a, oui, des informations puisqu'on voit sur quoi il va prophétiser. Donc, on peut plus ou moins le situer, mais on a l'habitude, quand on entend les prophètes parler, eh bien, qu'en préambule, on nous dise dans quel contexte ils ont prophétisé, qui était le roi à leur époque. Là, rien du tout. D'ailleurs, le terme, le nom de Nahum, eh bien, apparaît très très peu de fois. Puisque le nom de Nahum, eh bien, n'arrive qu'une seule fois dans tout le Tanakh. Et c'est ici, dans le premier verset du livre de Nahum Hanavi. Donc c'est vraiment quelqu'un de très particulier. Et on ne sait pas non plus vraiment d'où il vient. Alors on a parlé la semaine dernière de Kfar Nahum, qui voudrait voir la vie de Nahum là-bas, sur les bords du lac de Tibériade, mais rien n'est moins sûr. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout véritablement qui il a été. Mais dans la tradition d'Israël, eh bien, on voudrait voir Nahum comme venant de très très loin. Alors, c'est une tradition qui est quand même assez éloignée, mais il est possible que le fait qu'il s'appelle à El Kouchi voudrait dire qu'il vient de la ville de El Koch, qui se trouve, eh bien, très très proche de Ninevé. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il parle de Ninevé. Bon, le problème, c'est que la Gemara dans Maseret Megillah nous enseigne que la prophétie, c'est en Eretz Israël ou pour Eretz Israël. Et quand on nous parle de Yeheskel Hanavi qui a prophétisé à Babylone, on nous dit oui, mais ayo aya devar Hashem et Yeheskel ben Buzi. C'est-à-dire ayo mipnei shekvar aya. C'est parce qu'il avait reçu d'ores et déjà la prophétie lorsqu'il était en Israël qu'elle a continué lorsqu'il était à Babylone. En d'autres termes, eh bien, il n'a pas prophétisé toute sa vie que à Babylone. Là, si on voudrait voir Nahum comme étant complètement à côté de Ninevé, bon, ça laisse quand même poser pas mal de problèmes. Donc, ce personnage est très particulier. Mais sa névoie l'est tout autant. Puisque Nahum va à l'encontre de sa névoie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme son nom l'indique, il est censé être Malé Midat Arachamim. Nahum, c'est Nechama. Nahum, c'est censé être celui qui réconforte. Et pourtant, on va voir que sa névoie, c'est une névoie Kimat Kula de Midat Adin. Alors, est-ce qu'il y a véritablement Machloket? Eh bien, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment Machloket parce que le contenu de la névoie de Nahum, c'est effectivement une névoie de Midat Adin, de rigueur, de justice. Mais pas pour nous. C'est une névoie de Midat Hadin contre nos ennemis. Pratiquement tout le livre, eh bien, va parler de la chute, de la déchéance de Ninevé. Or, Ninevé était notre pire ennemi à l'époque. Eh oui, c'est Ninevé qui fait la galoute des 10 tribus du Nord. Et donc, eh bien, parler de la chute de l'ennemi nous permet d'entrevoir la Nechama pour tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, donc voici pour le contexte général du prophète Nahum. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Massa Ninevé. C'est Massa. Massa, c'est la sept. La sept Enaim. On va voir Ninevé. Sefer Chazon Nahum à El Kushi. On a dit El Koch, est-ce que c'est la ville? El Kouchi, ça peut venir également de Malkoch, la pluie qui tombe. C'est-à-dire, c'est également ici la Nechama après la destruction de Ninveh. Donc, Sefer Chazon Nahum à El Kushi. El Kano Venokem Hashem. Nokem Hashem ou Baal Chema. Nokem Hashem le Tsarav. Venoter ou le Oivav. Alors là, on n'avait pas l'habitude de voir Dieu comme ça. Nokem Hashem. Noter Hashem. Il y a un interdit dans la Torah pourtant qui nous dit Lotikom. Velotitor. On n'a pas le droit de se venger. Loticom velotitor. Ah oui, mais attention, continue le verset en disant, certes, loticom velotitor, avaletmi et bene amecha. C'est-à-dire qu'il y a un interdit de se venger pour les membres de ton peuple, parce que c'est ton frère. Et donc on te demande un petit peu d'en faire plus. Vous savez, il y a plusieurs halakhot comme ça qui nous demande à nous de nous comporter avec nos frères de manière un petit peu plus que de raison. La halakha la plus connue de cela, c'est Issur Ribit, l'interdit de prêter de l'argent à intérêt. Alors, on n'a pas le droit de prendre des intérêts d'un juif, mais on a le droit d'un non-juif. Ah tiens, et pourquoi ? Si c'est pas bien de prendre des intérêts, pourquoi est-ce que j'aurais le droit de le faire chez un non-juif ? Eh bien, la réponse est très simple. Parce que c'est très bien de prendre des intérêts. C'est tout à fait normal de prendre des intérêts. Je t'ai prêté 100 shekels pendant une semaine. Mais pendant cette semaine, j'aurais pu investir mes 100 shekels. Et ils auraient pu me rapporter même en les laissant à la banque. Donc, le manque à gagner, parce que je te l'ai prêté, c'est normal que tu me le rendes. Donc, si vous voulez, le fait de prêter à intérêt, c'est normal. Mais la Torah te dit, nachon, mais entre frangins, tu peux faire un effort. Et c'est pour ça que la Torah nous interdit de le faire entre nous. Mais pour les goyim, il n'y a pas de problème. De la même façon, quelqu'un qui t'a mis une claque, ben évidemment que tu vas lui remettre une claque, c'est normal. Mais, vers ton frère, on te dit, non, lotikom velotitor et bene amecha. Mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit que les nations ont fait n'importe quoi, Ninveh, ben c'est plus son frère. Donc, unokem venoter. Mais ça donne les oivav. C'est pour ça que c'est précisé les oivav. El kano venokem Hashem. Nokem Hashem ou baal chema. Nokem Hashem le tsarav venoter ou le oivav. Hashem erech apaim. Ah bon? Mais il y a deux secondes, tu viens de me dire qu'il était nokem venoter. Donc, il y a deux secondes, tu viens de mettre en avant son côté din. Et là, tu me dis non, tedarecha. Hashem malerachamim. Hashem ou erech apaim. Ou gedol koach. Venake, lo yenake, Hashem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne va pas se venger. Lo yenake. Il ne va pas laisser passer. Alors, de qui on parle? Si tout à l'heure on a parlé de ses ennemis, là maintenant on parle de ses amis, de Am Israël. Venake, lo yenake, Hashem. Besoufa, ou biseara, darko, ve anan avak raglav. C'est-à-dire que maintenant, on va montrer à Kadosh Baruch Hu comme étant Gibor Milchama. Il va se présenter ici, par les paroles de Nahum, comme étant celui qui va faire la justice et donc qui va détruire ses ennemis. Il faut bien comprendre une chose. Là, on va parler de Ashur, de Ninveh, qui est la capitale de Ashur. Il faut bien comprendre que pour l'époque, Ashur, c'est le mal incarné. C'est-à-dire que Ashur, c'est un empire, mais qui est terriblement akhzari, terriblement barbare, avec tous ceux qui vont conquérir. Par exemple, les Assyriens avaient une technique très bizarre d'envoyer en exil les gens. Parce qu'ils allaient à un endroit, ils détruisaient l'endroit et le conquéraient. La population était emmenée en exil, mais pas à Ashur, à un autre endroit qu'ils avaient conquis. Et la population de cet autre endroit a été emmenée à un autre endroit. Un déracinement total des identités. C'est pour ça que la Gemara va nous dire « Basan cheriv ve bilbel et haoumot ». C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui savoir celui-là vient de tel ou tel peuple parce que les Assyriens sont passés par là et ont fait un mélange pas possible. Et donc, Akadosh Baruch Hu maintenant, eh bien, va se comporter comme un chef de guerre envers Ashur. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Besoufa ou bisara danko ve anan avak raglav ». C'est quoi ça? Qu'il arrive tel un ouragan et il soulève un nuage de poussière. Quel est le nuage de poussière en question? Vous savez, à l'époque, quand il y avait une armée qui était en marche, eh bien, au loin, qu'est-ce qu'on voyait? On ne voyait pas l'armée, mais on voyait le nuage de poussière qui était soulevé par les pas des soldats ou par les chevaux, et ainsi de suite. Goer bayam vayabesheu. וכל הנערות החריב ומלל בשן וכרמל ופרח לבנון ומלל. C'est-à-dire que Dieu il va utiliser toutes les forces de la nature pour frapper son ennemi. הרים רעשו ממנו והגבעות התמוגגו ותישא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה. Il va montrer qui est le patron. Pourquoi est-ce qu'il faut que le monde entier soit impliqué? Ben parce que Ashur avait la main mise sur le monde entier. Évidemment, il est inutile de préciser, j'imagine, je l'espère du moins, que lorsque je dis que Ashur avait la main mise sur le monde entier, il est évident que vous n'allez pas venir me dire quoi, Ashur, ils étaient aussi aux États-Unis. Évidemment, nous le savons très bien, le monde entier de l'époque est assez limité. Le monde entier de l'époque, il s'arrête plus ou moins au croissant fertile et jusqu'à l'Europe, et puis c'est tout. C'est tout, c'est le monde connu. Donc, évidemment, quand on parle du monde entier de l'époque de Nahum, ce n'est pas le monde entier aujourd'hui actuel. Mais si aujourd'hui Akadosh Baruch Hu décide de faire la justice envers les peuples qui ont fait n'importe quoi, il est évident que ça sera filmé sur Internet, sur CNN. Sur Fox News, sur I24, sur BFM et autres chaînes internationales. C'est-à-dire, il est. Arim ra'ashu mimeno va'agvaot itmogagu. Itmogagu va'tissa haaretz mipanav v'tevel v'chol yoshveba. Lifne za'amo mi ya'amod ou mi yakum becharon apo. Qui peut résister face à la colère d'Akadosh Baruch Hu. Chammato nitecha ka'esh ve'atsurim nitsu mimenu. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Atsurim nitsu mimenu. C'est-à-dire même ceux qui auraient pu imaginer s'en sortir, ils sont pris au piège par l'attaque du Créateur. Ah. Ça présente pas Dieu comme étant Pucci-Mucci. Et là, Tov Hashem le Maos Beyom Tzara, Veyodea Chose Bo. Mais c'est Tov Hashem Beyom Tzara, le Maos Beyom Tzara. Akadosh Baruch Hu, c'est une forteresse. Akadosh Baruch Hu, c'est le gardien ultime. Ou Maos. Nahon? Velachen Beyom Tzara, c'est très bien de se réfugier dans la tour de garde qu'est Ribono Shel Olam. Agave, on voit ça au quotidien. On voit plein de gens qui ne sont pas forcément les plus grands piliers de la synagogue. Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont Betsara, tout d'un coup, tu les retrouves à la synagogue. Tov Hashem lema'oz beyom tzara ve'yodea chosebo. On avait posé un jour la question au Gaon de Vilna quand il y avait les grandes guerres. Vous savez, les grandes guerres napoléoniennes, de quel côté il faut mieux être? Il dit, il vaut mieux être du côté d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien d'être du côté d'Akadosh Baruch Hu. Donc effectivement, Akadosh Baruch Hu, il est Maoz la Tzadikim, Maoz la Oavim. Ou Beshetef over Kalla Yaase Mekoma. Ça va prendre pouf Ça va être une attaque, une blitzkrieg, comme on appelle ça. Agav, dans la vérité, dans la réalité, comment ça s'est passé, la chute de Hacho? Eh bien, dans la réalité, c'est trois armées qui ont uni leurs forces pour détruire Hacho. C'est Babylone, d'un côté. De l'autre côté, ce sont les Skittim. Et les troisièmes, c'est qui? Oh là là. Ah, je m'en souviens plus. Babel, Skittim. Eh bien, écoutez, j'ai un trou. Peut-être c'est l'Égypte. Peut-être que l'Égypte, ils ont été aussi dedans. Choliot l'Égypte. Bon, en tout cas, Babylone et les Skittim, ça c'est sûr. Mais pour l'Égypte, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a eu une attaque éclair sur trois fronts qui font que les Assyriens n'ont pas réussi à tenir et sont tombés finalement. Ça a été une attaque éclair dans la réalité aussi. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, l'Empire assyrien s'est effondré. Et après, on a vu l'avènement de Babylone. Agave, entre parenthèses, ça peut aider pour effondrer l'Empire assyrien qu'une grande partie de son armée ait déjà été décimée à Jérusalem. Ben oui, rappelez-vous que Sanhérib, lorsqu'il est venu conquérir Jérusalem, eh bien, Akadosh Baruch Hu, de nouveau, c'était en premier, mais l'a frappé, ve malach Hashem ika be machane Ashur, 185 000 morts. Donc même si les chiffres sont exagérés, il n'empêche que l'armée assyrienne a subi des pertes énormes dans la campagne de Jérusalem. Et ils ne se sont jamais vraiment remis de cela. Et donc lorsque plus tard, eh bien, les forces ennemies de Ashur les attaquent, eh bien, ça va être une victoire éclair. Et donc on nous dit ici, « Beshetef over kala yaaseh mekoma ve'oiva viradef rocher. Ma techashvun el Hashem kala ose. » Ma zeh ma techashvun. L'archov, batanach, ça ne veut pas dire penser. Le mot penser de l'hébreu moderne, l'archov, au machashava, ne veulent pas dire une pensée dans le Tanakh. Dans le Tanakh, l'echashev, l'archov, machashava, ça veut dire planifier, faire un plan. Et machshevet aman asher chashav ala yehudim. C'est le plan qu'il avait mis en place. Donc ici, on te dit, lo tzarich, ma, matechashevun el Hashem, kala. C'est-à-dire, tu crois quoi? Ça ne sert à rien de faire des plans pour essayer de battre Akadosh Baruch Hu. Il va tout détruire sur son passage, ce qui mérite évidemment d'être détruit, et lo yavo pa'amaim tzara. C'est en une fois que Dieu il va détruire Ashur. Regarde, lo yavo pa'amaim tzara, ça veut dire également que les Assyriens, là où ils ont déjà fait le mal, ils ne refont pas le mal une deuxième fois, parce qu'ils ne seront plus là. C'est-à-dire qui ad sirim sevuchim ou que sa'avam sevuim ou chelou que kash yavesh malé. En hébreu moderne, on dirait ochlim otam blimelach. Et en français, on dirait on va n'en faire qu'une bouchée. Donc, voilà. Mimer yatsa choshev al Hashem. Ra'a, Yo'etz Belial. Tu crois que tu vas réussir à faire des plans pour battre Kadosh Baruch Hu, Yo'etz Belial. Tu es un, comment dire, un charlatan. Ko'amar Hashem, im shelemim, vechen rabim, vechen nagozu, ve'avar ve'initich, lo anech od. Si font tshuva, im shelemim, Aziyeh Basader. C'est Akadosh Baruch Hu, il a laissé à Nineveh le soin de faire tchouva. Vous vous rappelez qu'on a lu le livre de Yonah. Donc, c'est pas que je m'acharne sur Nineveh, ils peuvent faire tchouva. De là, on voit qu'entre Micha, entre Yonah et Nahum, eh ben, Nineveh est redevenu pourri, peut-être encore plus qu'il n'était avant. Ve'ata eshbor moteu me'alaych. Ou mosrotaïr annatek. וציווה עליך השם לא יזרע משמך עוד מבית אלוהיך אחרית פסל ומסכה אשים קבריך כי קלותה. Je vais non seulement exploser Ashur, mais je vais aussi m'occuper de leur divinité, de leur Avodazara. Et effectivement, alors qu'on va retrouver une influence de la Avodazara babylonienne pendant très longtemps, après la chute de Ashur, le panthéon assyrien, Slicha, me'od halash. C'est-à-dire qu'effectivement, après la chute de Melchet Ashur, la Vodazara de Ashur, également, elle est tombée. Shaveshel, on a lu le premier chapitre de Nahum, il y a une grande question qui se pose. Lamazepo. Ma Kavana, quelle est la raison de ma question? Lamazepo. Arre, on se rappelle ce qui a marqué dans le traité de Megillah à la page 14, que Nevoa sheutzrecha le dorot nirteva, ve shelo utzrecha le dorot lo nirteva. Qu'une prophétie qui sert les générations est inscrite, et une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas inscrite. Il y a eu plein de prophéties qui ont été données par X ou Y personnes, mais qui n'avaient pas une vocation à servir toutes les générations. Et donc, elles n'ont pas été inscrites dans le Tanakh. Alors, pourquoi celle-là, qui nous parle uniquement de la chute de Ninvé, est inscrite dans le Tanakh? Eh bien, tout simplement parce que Ninvé, à l'époque, Ze'em Amamlachot, c'est la mère de tous les royaumes. Et donc, ce qui est en train d'arriver à Ninvé parce qu'ils ont fait n'importe quoi, eh bien, c'est ce qui peut arriver à n'importe quelle puissance qui se prendrait pour un petit peu trop... Hein? Et c'est en cela que ça sert évidemment les générations. Aujourd'hui, Am Israël fait face à des ennemis qui ne sont pas des superpuissances. Les superpuissances du monde ne sont pas en guerre pour l'instant avec Israël. Mais on pourrait se poser la question, si jamais il y a des peuplades qui essayent de faire beaucoup trop le mal, et à Israël et Bichlal dans le monde, eh bien qu'on sache qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas faire. Alors, ne me posez pas la question, alors pourquoi il a laissé faire ça? Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Je ne peux pas vous répondre. Mais cette névoie, elle doit aussi avoir un impact pour les générations futures. Chapitre 2. Iné aleharim ragle mevaser. Ah, mais tiens, ça me fait penser à Ishayahu Anavi, ça. Ah, c'est les mêmes mots. Ken, Nahum, Ishayahu, semble-t-il, si on contextualise avec Ashur, eh bien, semble-t-il qu'ils sont plus ou moins à la même période. Nahum un peu plus tard, Ishayahu un petit peu plus tôt. Et donc, lorsque Ishayahu, lui, va dire qu'il voit Alearim, Raglem et Vasser, c'est-à-dire qu'il le voit dans un futur, eh bien, Nahum, lui, dit « Iné Alearim, Raglem et Vasser ».« Mazé Raglem et Vasser », les pieds de l'annonciateur. On parle de quoi? On parle ici de Ikveta de Meshicha. C'est-à-dire que c'est déjà en train de se mettre en place l'époque du talon messianique. Donc on nous dit, Iné alaharim ragle mevaser, Mashmiya shalom. Mazé Mashmiya shalom. Ben oui, si Ashur tombe, il peut y avoir le shalom dans le monde. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, décident de faire la guerre. Loye shalom ba'olam. Mais si les États-Unis, la Russie ne font pas la guerre, si les superpuissances sont en paix, soit parce qu'elles ont fait la paix, soit parce qu'elles n'existent plus, alors il y a une possibilité de faire la paix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés vers Vladimir. Est-ce qu'il va envahir l'Ukraine ou est-ce qu'il ne va pas envahir l'Ukraine? Et s'il envahit l'Ukraine, est-ce que Joe, il va répliquer ou il ne va pas répliquer? Il y a des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Donc, « Iné alaharim ragle mevaser, mashmiya shalom, chage Yehuda, chagaich, shalemin adaraich. » Enfin, Am Israël va pouvoir fêter ses fêtes tranquillement. Ma kesher. C'est pas parce que Ashour, ils sont là que tu peux pas faire la fête. Mais si. S'il y a la superpuissance qui est contre toi, tu seras jamais serein. Donc, là, maintenant que Ashour n'est plus, eh bien, effectivement, on peut recommencer à faire nos fêtes, à vivre une vie normale. Qui lo yosif od le'avar bach belial kullo nichrat. C'est ceux qui te veulent du mal, ceux qui essayent tout le temps de te faire du mal, eh bien, ça y est, je m'en suis occupé. Allah mefitz al panaich natsor netsura. Tsape derech chazek motnaim ametz koach meod. Almi, le prophète, là, il parle à qui? Il parle évidemment au Am Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, renforce-toi. Retrouve ta puissance. Quoi? Est-ce que c'est le moment, eh bien, de, je ne sais pas moi, de partir en guerre contre Ashour? Non, c'est pas ce qu'on nous dit ici. On dit, maintenant qu'Ashour n'est plus là, reconstruis-toi. Chazek motnaim. Mazé à motnaim. C'est l'endroit de la vie, l'endroit d'où sort la vie. Donc ici, nous dit le prophète, quand les superpuissances qui te voulaient du mal, eh ben, ne sont plus, à toi maintenant de te relever, au boulot. Alem efit salpanaïr natsor metzura tsepeder chazek motnaim ametz koach meod. Ki shav Hashem et geon Yaakov. Ki geon Israël. Qui bekakum bokekim uzemoreem shichetu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui shav Hashem et Geon Yaakov. Akadosh Baruch Hu a ramené la grandeur à Yaakov. Yaakov, vous vous rappelez, c'est notre appellation Bagalout. C'est comme ça qu'on nous appelle Bagalout. Yaakov. Donc quand on est soumis complètement à Ashour, bah évidemment, on est Yaakov. On est Jacob. Mais on te dit non, il va faire remonter la grandeur de Yaakov, qui gagne Israël. Comme lorsqu'on était Israël. On va recommencer à apprendre à se battre, on va recommencer à apprendre à faire la guerre, on va recommencer à apprendre à vivre notre vie normalement. C'est-à-dire, cette semaine, on a passé le jour du 11 Adar. Qu'est-ce que c'est que le 11 Adar? Alors certes, les festivités, elles vont être repoussées à Adar Bet. Évidemment, comme Pourim d'ailleurs. Mais le 11 Adar, dans la tradition du renouveau d'Israël, c'est quoi? Alors, on va voir si on a des gens dans l'assistance qui sont un petit peu de droite. Est-ce qu'on a des anciens Bétarim parmi les gens qui nous écoutent? Ou on n'a que des EI? Hop, ma cour est beau. Attendez, je vous ai perdu. Deux secondes. Où est mon zoom? Attendez, où est mon zoom? Je vous entends, mais je ne vous vois plus. Deux secondes. Où es-tu, zoom? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez voir. Où est mon zoom? Vous m'entendez?
On t'entend, Ethan.
Ah, c'est très bien, donc ça, c'est juste moi qui ai perdu l'image. Voilà, je vous ai retrouvé.
Voilà.
C'est parfait. Je vous ai retrouvé. Tout va bien. Tout va bien. Donc, évidemment, évidemment, quelqu'un l'a dit, bien sûr, Tel Chai. Allez, Tel Chai. Tel Chai, c'est le combat. Pourquoi il est important ce combat finalement? On a perdu. On a perdu le combat de Tel Chai. Il y a eu 8 morts de chez nous. Et il a fallu des mois et des mois pour revenir à Tel Chai. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Tel Chai, du 11 Adar, comme étant eh bien, un moment, une date si importante? Eh bien, simplement parce que c'est la première fois que ça y est, on a pris les armes pour se défendre. Alors, c'est vrai qu'on a perdu, mais ça a ouvert la porte aux autres combats où on a gagné. C'est-à-dire, et on se rappelle tous de ce que veulent dire les initiales du mot « bêtard », bien qu'on ait complètement changé les lettres, mais c'est pas grave. « Bêtard », ça veut dire « Brit Yosef Trompeldor ». Il y a Femod, juste que Trompeldor, c'est avec un tête, et que Bétard, c'est avec un tav. Mais bon, C'est pas très grave. Ça aide. Donc tout ça pour dire que il est qui shav Hashem et Geon Yaakov, qui Geon Israël, qui bekakum bokekim uzemorehem shichetu. C'est-à-dire que nos instruments de guerre ne nous servaient plus. Mais maintenant, il va falloir les retrouver. Magen giboreu meadam anchechail metulaim be'esh peladot arechev beyom echino. On parle ar'alu. C'est-à-dire qu'on parle ici de la façon dont Amisrael doit faire face à tous ses ennemis qui ont des armures incroyables, des technologies incroyables pour l'époque. Alors, Israël, il n'est pas censé être le plus fort de la région. Et pourtant, il doit gagner. Magen giboreu, me'adam anshechail, metulaim be'esh peladot, arechev beyom achino, ve'abiroshim sicha aralu, bachutzot yit olelu, arechev yishtakekun, barchovot, מראיהם כלפידים וכברקים ירוצצו. On a l'impression d'avoir ici, comment dire, le passage en revue du commandant de son armée avant qu'elle parte au combat. Elle ressemble à quoi, cette armée? Cette armée qui est censée faire face ici. Eh bien, elle est imposante. Elle est pleine d'éclat. C'est une armée qui est... qui est, dans le paraître qui a l'air extraordinaire. Je vous rappelle quand même, vous savez que ça a mis énormément de temps avant de se dire que ça pouvait aider à la victoire de se fondre dans le décor. Vous savez qu'à l'époque, plus les soldats étaient voyants, mieux c'était. C'est-à-dire que les armées de l'époque, et je te dis de l'époque jusqu'au XXe siècle, hein, les uniformes étaient, par exemple dans l'armée française, les uniformes étaient quand même avec un pantalon rouge vif et un casque avec des plumes rouges. C'est en termes de camouflage, on a déjà vu mieux quand même. Bon, à la limite, si tu attaques Mars, mais sinon, on a vu mieux. Mais parce qu'à l'époque, on ne pensait pas au camouflage, on pensait à faire une impression énorme sur l'ennemi. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait que nos armes, notre accoutrement, machin, il en jette. Il en jette énormément. Yiskor adirav, yikashelu be'alichatam, yemaharu chomatam, chomata, sliha, ve'uchan asovech, asokech, sliha. Yiskor adirav, yikashelu be'alichatam. Dieu, il ne va pas les laisser avancer, nos ennemis. C'est sûr que non. Yemaharu chomata ve'uchan asocher. Mazé. Eh bien, la choma de Nineveh, c'est une choma énorme, mais qui était surtout sur les fleuves. Et comment est-ce qu'on pouvait vaincre Nineveh? C'était en faisant tomber la choma sur le fleuve. Nineveh, c'est une ville qui est pas entourée, mais encadrée comme ça, de deux grands fleuves. Il y a le Tigre, et il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Ninive était une ville qui était énormément approvisionnée en eau. Et la Choma, la muraille de Ninive, passait à un endroit au-dessus du fleuve. Et donc, c'était le meilleur endroit pour attaquer. Si tu fais s'effondrer la Choma sur le fleuve, non seulement tu as réussi à créer un trou dans la Choma, mais en plus, tu les as empêchés d'avoir la Aspakat Amaim autant qu'avant, d'avoir autant d'eau qu'avant. Donc là, c'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu, Sha'arei ha-ne'arot niftachu, ve'ha'echal namog. C'est comme ça qu'on va réussir à battre. Et agave, c'est comme ça que Ninive est tombée, Bémet. Ve'utzav gulta ha'olata, ve'ha'me'otea mena'agot, ke'kol yonim metofafot al livvehem. En gros, ils vont prendre leurs jambes à leur cou. À l'intérieur de Ninive, ils vont être complètement apeurés de la réalité. Ve Ninive, kevrechat maim, kevrechat maim, hi, ve emma nasim im medu amodu ve en mafne. Ninevé était une ville, comme je l'ai dit, une ville pleine, pleine d'eau. Mais là, ils ont plus coulé avec cette eau-là qu'ils n'ont montré leur grandeur et leur puissance. Bozu kesef, bozu zav, ven ketse letruna, kavod mikol kli chemda. Ils étaient très riches à Ninevé. Là, c'est la superpuissance mondiale. Mais toutes leurs richesses n'ont pas pu les sauver. Shum davar. Bouka, mevuka, mevulaka. Ça, c'est le style des Nevim, de faire comme ça des jeux de mots. Bouka, mevuka, ou mevulaka. Velev names, ou fik, birkaim. Vechalchala, bechol motnaim. Ou penekulam, kibtsu, paru. Là, je pense que les choses sont claires. Il nous dit, le prophète, que à Ninevé, tout le monde va être, comme on dit, le cœur dans les talons. Ils vont être complètement perdus, ils vont être apeurés, effrayés. On te dit ici, Khalkhala, Bamotnaim, Lev Names. En gros, c'est vraiment la déchéance de Ninevé qui est mise en avant. Ayemeon Arayot, ou Mir'e, ou Lekfirim, Asher Allah, Arié, la vie, Sham, Gour, Arié, Ve'en Macharid. Normalement, Ninevé faisait peur à tout le monde, comme quand quelqu'un se retrouve dans la cage du lion. Mais là, Arié Torev bide Gorotav, ou Mechanek Lilviotav, Vayemale Teref Chorav, ou Meonotav Terefa. Le Arié, il ne peut plus aller chasser dehors. Ils vont s'entretuer. Inneni Elaich, Neum Hashem Tsevaot. והבארתי באשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב, והכרעתי מארץ תרפך, ולא ישמע עוד כל מלאכך. En gros, une fois que Ashur sera tombé, זהו, elle ne se relève plus. Oua, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oi, עיר דמים. Kulla kachash perek melea loyamishtaref. Cette ville, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Ashur? Puisqu'on dit ici, kol shod ve kol rash ofan ve sous doer ou merkava merakeda. Paras maale ve lav cherev ou berak chanid ve rof halal ve kovet pager ve en ketse le gvia. Ils vont être complètement détruits. Donc maintenant, juste avant de continuer, je vous pose la question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Ashur? De Ashur lui-même, il ne reste rien. Enfin, de l'Empire lui-même, il ne reste rien. Pardon?
Rien.
Non. Il reste les Juifs qui ont été emmenés en Galoute à cause de Ashur. C'est-à-dire que, de notre point de vue, encore une fois, on a dit Nevo Ashur Tzrechale Dorot pour l'âme Israël. Il nous manque encore les 10 tribus qui ont été emmenées en exil par Ashur. Mais la reine, quand on te dit Kimerosh Tsuri Merenu, Omegevaot Ashurenu, est-ce qu'on ne nous parlerait pas un tout petit peu de ça? Et puis, lorsqu'on va nous dire והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול והיו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. C'est-à-dire que ce qui reste aujourd'hui de Ashur, c'est de acter la chute pour pouvoir faire revenir ceux qui ont été exilés. מרוב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit que Ashur, même leur grande dame, maintenant on les considère comme des mechashvot, comme des zonot, bimchila lechvotrem. Inneni elaich meum Hashem tsevaot, vegileti shulaich al panaich, ve'ereti goyim me'areich u'mal'u mamlechot kelonech. Kadosh Baruch Hu, il fait la justice avec même les plus grandes puissances. Veishlachti alayich shikutzim Veni baltir, veshamtir keroi. Tu croyais que tu étais imprenable? Tu croyais que tu étais au top? Moi, je me rappelle, il y avait un film, comment ça s'appelait? Film catastrophe comme ça. Je m'en rappelle plus. Ah, le jour d'après. Le jour d'après. Un film catastrophe classique, des dérèglements climatiques, machin, et montée des océans, ce que tu veux. Et tu voyais, je crois que c'est dans ce film-là, je suis pas sûr. Bon. Où tu voyais que finalement les États-Unis étaient complètement, pratiquement rayés de la carte. C'était les trois quarts des États-Unis devenaient sous la neige et sous air glaciaire, ce que tu veux. Et tout le monde était obligé de fuir au Mexique. Genre, tu croyais que tu étais la superpuissance. Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Il peut aussi te calmer. OK ? Vaya kol ro'ayr yadud mimer. Va'amar shaddeda ninve mi yanud la. Mais aïn evakesh menachamim lach. Plus personne ne va vouloir venir avec vous. Vos alliés vont vous trahir. Tous ceux qui vont penser à vous vont passer leur chemin. Atet vi minno amon na yosheva ba yeorim maim saviv la. Asher chel yam yam chomata. Kush atzma u mitzrayim ve'en ketze put veluvim ayu be'ezretech. Gam i la gola alcha bashevi. Gam ola lea. כן, ירוד תשו בראש כל תחוצות, ועל נכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רוד תקו בזיקים. T'inquiète pas, hein, je m'occupe aussi de tes alliés. Parce que les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et donc ceux qui ont été les partenaires de Ashur, eh bien je m'en occupe aussi. Gam at תשקרי, תהי נעלמה. גם את תבקשי מעוז מאויב. מילה, toi aussi tu vas supplier tes dieux de te sauver. כל מבצרייך תהנים עם ביקורים, עם יינאו ונפלו על פי אוכל. זה תוס את חפמי, ça marchera pas. הנה עמך נשים בקרבך, נשים בקרבך לאויבייך, פתוח נפתחו שערי ארצך, אכלה אש בריחייך. Ce que vous avez fait à vos conquêtes, eh bien, on vous fera aussi. Vos femmes seront capturées, vos réserves seront brûlées, comme ce que vous avez fait aux autres. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצרייך, בואי בתית ורמסי בחומר החזיקי מלבן. מי מצור שאבי לך. Tu vas essayer de puiser l'eau qui te reste. On est devant une voie de catastrophe pour Ninvé Ashur. שם תוכלך אש, תחריתך חרב, תוכלך כילק, יתכבד כילק, יתכבדי כהרבה. En vrai, tu vas être le buffet des sauterelles. Genre, vraiment une destruction totale. Irbed rochlaïch mi kochve shamaim yelek pashat veyaof. À peine dans les étoiles, on va se rappeler de toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va se rappeler de Ashur? Uniquement la mythologie Ashurim, la mythologie assyrienne. C'est tout ce qui va, tout ce qu'on va se rappeler de vous. מנזרייך כהרבה ותפסרייך כגוב גובי. Tu vas tomber dans l'oubli, quoi. אחרונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו הים. Plus personne ne saura où vous trouvez. נמו רואיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפושו עמך על הערים. Tu vois, comme vous avez amené toutes vos conquêtes en exil pour que personne jamais ne puisse les ramener, c'est exactement ce qui va vous arriver. En kea le shivrecha, nachala makatecha, kol shomei shimacha, תקעו כף עליך, כי על מי לא עברה רעתך, רעתך, סליחה, תמיד. כי על מי לא עברה רעתך תמיד. La névoie de Nahum est une névoie terriblement violente contre ceux qui ont été terriblement violents envers une grande partie du monde. En gros, c'est quoi la Nechama de Nahum ? Eh bien, la Nechama de Nahum, c'est que le prophète nous explique à quel point Kadosh Baruch Hu gère le monde Mida Keneged Mida. Et tout ce que les Assyriens ont fait subir aux autres, eh bien, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu leur fait subir. Pourquoi cette névoie de Nahum, qui ne parle que de la chute de Ninive, qui est tombée il y a plus de 2500 ans, est mentionnée dans le Tanakh ? Pour que chaque nation, chaque homme, chaque femme de cette planète soit conscient que ça peut prendre du temps, qui Akadosh Baruch Hu est Rechapaim. Mais au final, Akadosh Baruch Hu gère le monde Mida Keneged Mida. Et c'est en cela qu'il y a une grande Nechama, de savoir que ceux qui ont été mauvais, eh bien, finiront par tomber. Et ceux qui ont été bons finiront par se lever également. Chazak Baruch, Vetoda Nahum Hanavi. S'il y a des questions, c'est maintenant.
Merci beaucoup, Rav Kizon. Juste avant les questions, précision très importante, puisque le prochain cours avec toi pour Midrash et Tzibouda aura lieu lundi prochain. T'es au courant, on est d'accord ?
Tout à fait.
Voilà. Donc,
mais on m'a pas dit, mais on m'a pas dit est-ce que c'est la même heure ?
Ouais, attends, je t'ai pas écouté, ouais.
Attends.
Oui, Dan.
Attends.
Je m'allume le micro.
Est-ce que c'est la même heure ?
Oui, la même heure. Vous restez à la même heure. Donc lundi prochain à 18h en Israël, 17h en France, on aura le Rav Kizon pour
Habakkuk
sur la suite. Et le Rav Ackerman, pour ceux qui suivent, il passera le mardi. Questions, chers amis ? Non ?
Bah, très bien. Pas de questions.
Eh ben, c'était clair.
Yofi. Chazak
Baruch. Bonne soirée.